Isabelle.
Je t'aime.
Ça s'est monté comme.
Oui, on peut en chanter.
On peut faire un Cham Chobla.
Cham Chobla, ouais.
Ok. Moi.
On fait premier couplet après premier refrain.
Ouais. Ok. Ça change énormément notre rapport à l'espace public. On se l'approprie de plus en plus, aussi comme si c'était chez nous. Et au-delà de ça, pour nous, ce qu'on aime avec la déambulation, c'est que ça offre des opportunités uniques à chaque lieu, à chaque repérage. Et donc quand on est dans les rues et qu'on doit choisir un parcours, on est très sensible, extra sensible à tout ce qui se passe, aux gens qui sortent de leurs fenêtres, à qui on peut peut-être demander de pouvoir l'utiliser pendant le spectacle, à tel petit recoin sur lequel on peut monter, grimper, à telle plante qu'on peut renifler, à tel passage de train qui peut potentiellement gêner l'écoute d'un des chants. Et donc tous ces éléments sont toujours déterminants dans le rapport à cet espace qu'on va traverser. Et en effet, on ne regarde plus les rues pareilles.
Nous sommes avec Joya Vandenberg et Tom Binet, deux profils assez différents mais qui finalement se complètent très bien puisque tu vois, Joya, tu as une jeunesse baignée dans le cinéma, l'apprentissage du chant jazz et puis l'étude de l'anthropologie, le théâtre corporel aussi qui vient dans un second temps. Puis toi Tom, plutôt une jeunesse baignée dans le cirque, l'acrobatie au sol qui t'attire le plus dans ces disciplines et l'étude de la science politique. Ça vous mène cette rencontre à monter le Grand Tour et ce premier spectacle en 2018, Souvent je regarde le ciel, avec déjà des questionnements sur la place d'un humain dans le monde, dans son rapport aux autres, aux vivants, à la nature. Et là, dans Animal Entendu, c'est à nouveau un spectacle qui fait s'épouser votre amour de la sensibilité artistique, mais aussi votre curiosité pour l'étude des comportements humains et de sa vie en société. Est-ce que vous parleriez, vous, d'une sorte de continuité entre ces deux spectacles? Et est-ce que j'ai raison sur ces deux disciplines qui s'épousent ensemble?
Et bah oui, tout à fait. La continuité entre les deux spectacles est assez évidente. Dans le sens où le premier spectacle s'intéressait à ce qu'on a appelé la thématique de la solastalgie, c'est-à-dire d'une forme d'anxiété autour du changement climatique, donc de l'éco-anxiété, qui est quelque chose qui est de plus en plus présent dans nos sociétés aujourd'hui. Et ce deuxième spectacle, il a quelque chose de plus ontologique sur qu'est-ce que c'est notre rapport à nous-mêmes en tant qu'animal humain et à l'ensemble du reste du vivant et des animaux qui nous entourent. Donc qu'est-ce que nos comportements, nos manières d'être en relation avec ces animaux-là et avec nous-mêmes, avec notre propre corps, notre propre liberté, nous apprend en fait sur la relation qu'on peut avoir avec nous-mêmes et les autres.
Et alors pour étudier ça, justement, tel des anthropologues, vous avez étudié l'animalité dans un zoo notamment, dans une jungle, à Bornéo aussi, vous avez appris le pistage. Qu'est-ce que ça vous a appris tout ça? Pourquoi c'était nécessaire de passer par cette étape-là?
C'était pas nécessaire, je pense, mais on était curieux et on était en Indonésie parce qu'une partie de ma famille est indonésienne. Donc on était de toute façon en Indonésie et très curieux pour aller à la rencontre du sauvage ou ce qu'on imagine, ce que c'est encore le sauvage, parce qu'ici en Europe, ça commence à devenir vraiment très difficile à se rendre compte. Et ce qui nous a frappé le plus, c'était l'absence des animaux en fait, et que nous on était tellement curieux, on avait tellement envie de rencontrer des singes, enfin tout et n'importe quoi, et en fait on a rencontré surtout un silence et l'évidence que quand l'humain s'approche, les autres animaux s'enfuient. Donc ça, c'était une leçon qui nous a aussi apporté dans le spectacle une sorte de conscience de notre statut, quoi, en tant qu'humain. On s'y échappe pas et être à la rencontre des autres, c'est surtout aller vers eux pour comprendre leur monde et pas s'attendre à ce que la rencontre soit simple ou évidente parce qu'on ne parle pas les mêmes langues, on n'a pas les mêmes cultures, on n'a pas la même manière de faire. Et c'est donc, ça nous a confrontés avec la complexité de rencontrer l'autre dans son altérité.
J'ai pourtant l'impression que dans ce spectacle, vous essayez de montrer que l'humain est en fait une espèce un peu comme les autres, en tout cas essayer de se détacher de l'anthropocentrisme.
Oui, tout à fait. Ce spectacle, il est vraiment construit sur tout un ensemble de lectures aussi philosophiques, anthropologiques, sociologiques et éthologiques sur ces thématiques-là. Et donc l'idée que l'humain est à la fois, en effet, un animal particulier, parce que ce serait une erreur que de le nier, mais d'abord comme les autres et surtout parmi les autres, et qu'il y a une forme d'intimité perdue à retrouver, peut-être une manière d'être d'accepter la diversité des manières d'être vivant et de les considérer, c'est-à-dire regarder ces êtres comme on regarde les étoiles, ça vient de là, considérer et essayer de trouver peut-être des nouvelles manières de cohabiter. C'est-à-dire on habite tous sur cette planète, on y est confiné. Et aujourd'hui, la question c'est comment j'y habite avec l'ensemble de ces autres êtres vivants avec qui je partage cette terre. Et plutôt que de créer un espace totalement humain dans lequel l'ensemble du vivant n'a pas de place.
Si je peux me permettre... L'idée n'est pas du tout de nier la spécificité des hommes ou la beauté de nos cultures et de l'intelligence qui nous sépare aussi d'une certaine manière, ou enfin la forme d'intelligence que nous pratiquons, mais de cesser de penser en hiérarchie nécessairement, que ce soit l'homme et puis la nature. L'idée, c'est de mettre en évidence la porosité en fait de ce qui nous sépare.
Tom, tu m'as parlé là d'intimité retrouvée. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que dans notre rapport à nous-mêmes, il y a quelque chose d'essentiel à par moments qui se perd dans notre compréhension intime de ce qu'est notre corps d'animal, la conscience aussi de ce qui se passe sur notre peau, de l'idée que nos peaux, nos mains sont aussi des écosystèmes. Et qu'à la fois, on peut regarder des paysages extérieurs magnifiques, mais qu'on est aussi le paysage de d'autres êtres. Et pour moi, ça crée un rapport au monde qui devient très différent, et beaucoup plus intime avec à la fois donc, nous-mêmes, et puis l'intimité qui se retrouve peut-être, c'est qu'est-ce qui change dans mon rapport au scarabée qui est par terre, que je regarde juste maintenant, si je lui décerne une agentivité, si je décide que lui aussi, il a une volonté, un but à atteindre dans sa vie, peut-être des enfants à qui il tient et pour qui c'est qu'il a besoin de protéger parce que ça lui tient au cœur.
Yeah.
vous questionnez sur l'animalité, donc là on est en train de parler, il y a des textes, des monologues aussi dans ce spectacle, mais vous dites c'est aussi ne pas toujours vouloir mettre de mots sur les choses, ça donnait un peu à l'instinctivité du geste, du cri, du chant, de l'acrobatie. C'est donc une thématique absolument parfaite pour un spectacle de cirque contemporain.
Moi je ne suis pas circassienne, donc je pense que c'est mieux pour Tom de répondre par rapport au cirque.
Alors une thématique parfaite pour le cirque contemporain, compliquée à répondre, mais par contre c'est une thématique qui pour nous au niveau de ce qu'on a pu exploiter autour du corps était intéressante, et je pense surtout qu'elle était assez intéressante à traiter dans la rue, puisque la particularité de ce spectacle c'est que c'est une déambulation théâtrale et chorégraphique à poste, et donc on traverse des rues, et que le lien de rencontre entre ces corps qui essaient de se mouvoir comme s'ils n'avaient pas été construits socialement et culturellement, et des rues qu'on questionne avec ces corps qui les traversent, ces portes fermées, ces murs, ces arbres carrés, tous ces éléments qui paraissent de notre quotidien et qui pourtant sont extra-quotidiens, sont construits, sont particuliers. Tout ça communique pour vraiment, je pense, mettre en valeur aussi ces questions qu'on se pose. Et donc, voilà, dans le spectacle, la peau, les corps, la puissance des corps s'exprime aussi par l'acrobatie, qui vient aussi, bien sûr, rappeler une forme d'animalité plus stéréotypique à certains moments, même si on essaie toujours de ne pas être dans la mimétique, mais dans une forme de... d'appropriation de qu'est-ce que c'est notre corps d'humain quand on le laisse être touché par la manière dont les autres animaux vivent.
Entre le discours du geste et de l'acrobatie et le discours du verbal, justement, comment est-ce que ça s'articule tout ça? Est-ce que parfois des parties verbales peuvent se transformer? Est-ce que ça correspond à un même discours ou est-ce que c'est deux choses qui travaillent de façon un peu parallèle?
Je pense que c'est les deux. Il y a des moments où on travaille plus... avec le cerveau, donc quand on utilise la langue, on est dans le langage humain, dans la culture humaine, et on raconte des histoires qui nous concernent en tant qu'humains. Quand on travaille à travers le corps et aussi le chant, on essaye davantage de toucher au sensible et à réapprendre à sentir quelque chose qu'on ne peut peut-être pas comprendre. Et en ça, c'est aussi un lien à ce qu'on cherche avec les autres animaux. On ne peut pas les comprendre nécessairement comme on comprend les autres humains, mais pour autant, on peut être en lien avec eux et on doit les considérer pour changer nos manières d'être sur Terre. voilà, et puis il y a des moments où je pense qu'ils se rencontrent aussi, les cerveaux et les corps, le sensible et le pensant. C'est pas séparé, c'est pas deux îles qui se touchent pas, enfin, voilà.
Sam Chablo Lamazo Sroisa.
Une autre des expressions qu'on entend dans ce spectacle, c'est la musique, donc avec un musicien notamment, mais aussi des polyphonies d'Europe de l'Est et particulièrement de Géorgie que vous convoquez et qui me semble symboliser une sorte de retour à l'ancestral aussi. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne aussi bien ce chant qui provient de cette culture-là?
Eh bien, les chants géorgiens, j'ai un amour pour ça. À la fois, moi, ça me ramène à quelque chose d'ancestral. Et puis, il y a la beauté des harmonies qui sont souvent dissonantes et qui ne sont pas anodins à nos oreilles. Et donc, ça me ramène à cette chose où On ne peut pas comprendre, on ne peut pas le mettre dans une case. On entend quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Est-ce que pour autant on peut se laisser toucher? Est-ce que pour autant on peut, oui, être pleinement présent? Et je pense que ces chants, comme ils sont très très forts et aussi écrits pour être en plein air, écrits pour être criés ensemble en quelque sorte, nous, ça nous rappelle aussi à cette sensation de meute, d'ensemble et chanter en harmonie. Je ne sais pas si tu as fait ça, mais dans notre groupe, ça nous donne ces liens forts aussi. Puis on a découvert aussi à un moment que les loups aussi chantent en polyphonie et les animaux, enfin, leur manière de communiquer, enfin, pas tous les animaux, mais ça ressemble davantage au chant. Et donc ça nous semblait intéressant. Voilà.
Donc il y a cette culture-là qui est convoquée, beaucoup d'autres, et notamment dans la structure qui apparaît à un moment du spectacle. On n'est pas obligé de la dévoiler, mais elle est construite sur un modèle d'architecture japonais, une autre culture donc mobilisée encore une fois. J'ai l'impression que c'est un peu comme pour que ce spectacle touche un peu à une certaine universalité, d'avoir touché à toutes ces parties, toute cette culture-là.
Je crois que pour nous, c'est parti de quelque chose de très intime, ce rapport à cet arbre. C'est un arbre qu'on est allé, qui était mort sur pied, qu'on a du coup découpé à même la forêt, dont on a choisi les branches, qu'on a travaillé à la ponceuse, à la tronçonneuse, enfin au rabot, etc. Pour en faire quelque chose qui à la fois peut être utopique et dystopique, une forme d'arbre qui vient se planter sur le béton. Et cet arbre, en effet, est basé sur un système d'architecture japonaise, d'imbrication des branches les unes avec les autres, qui nous permet d'avoir le décor qui n'est pas construit au début du spectacle, mais d'avoir comme dernier geste final de ce spectacle la construction d'une forme d'édifice ensemble, qui à la fois nous rassemble, est une invitation à s'élever, et puis qui symbolise aussi, bien sûr, une forme de vie, parce que l'arbre a aussi toute cette symbolique de la renaissance, de la verticalité, de l'ancrage, des racines. Et puis c'est aussi, bien sûr, parce qu'on travaille avec un artiste aérien qui est magnifique et qui, pour exploiter au maximum ses qualités d'artiste, demandait aussi à ce qu'on l'envoie en l'air.
Par rapport à la culture japonaise, l'envie était principalement de modifier le moins possible les branches existantes et de ne pas faire des trous ni mettre des clous. Ça nous semblait... Finalement, on a quand même dû faire des modifications, mais c'était plus cette envie-là qui nous envoyait vers cette idée d'architecture japonaise que l'idée de devoir au maximum inclure des cultures différentes. Et c'est pareil, en fait, avec les chants géorgiens. C'est les chants qui sont venus vers nous parce qu'on cherchait quelque chose, ils étaient là, mais c'était pas « Ah, la Géorgie, ça, c'était un super pays enfin, ». C'est probablement un super pays, mais c'est plus intime qu'anthropologique, en fin de compte, ces recherches.
Et peut-être un détail par rapport à ces chants, c'est que dans les chants, on a aussi modifié certaines paroles, de manière à ce que si quelqu'un de Géorgie est présent dans le public, il n'entende pas son chant chanter exactement comme il le connaît de manière traditionnelle, mais transformé pour le propos qu'on veut proposer à ce public. Et donc tous ces chants parlent aussi de notre rapport à la nature et au vivant. Et on remercie beaucoup ces cultures d'avoir cette magnifique culture de chant qui parfois nous manque dans nos sociétés.
Shanan Prite.
Prite.
Lipa moja. I pusti nas se ti zivit vomentilum, dot se tvoja la mia fuga, o vinne vela madruga, chanan prite.
Sí.